Comme est du Maryland, on se dirige vers le Bourget de l'autre côté de l'Atlantique où nous attend la sénatrice de Paris, Marie-Noëlle Lienemann. Madame Lienemann, bonjour.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue à Radio Centre-Ville.
Merci. En plus, vous m'avez accueilli avec une chanson sur le charbon.
Ben voilà. C'est, ce n'est pas un hasard, puisque le charbon, après tout, est à l'origine même de l'Union européenne, si on change de sujet, mais bref.
Absolument, absolument.
Et le charbon est...
La chanson, elle vient du Pas-de-Calais, du Nord-Pas-de-Calais de la France. C'était à l'origine, Bachelet, Pierre Bachelet qui l'avait écrite.
Effectivement. Marie-Noëlle Lienemann, vous êtes en plein cœur du Bourget, en plein cœur de la COP21 qui va prendre fin dans quelques jours et qui a commencé la semaine dernière. C'est le sommet des sommets. En fait, on le dit même en France, c'est le plus grand sommet diplomatique de l'État, que l'État français a créé. Et c'est un sommet excessivement important. Il s'agit de sauver la Terre. Jusqu'à présent, vous l'avez observé, vous y avez peut-être participé. À première vue, est-ce que ça va bien à la COP21 présentement?
Bon, d'abord, ça avance. Quand on fait la comparaison avec Copenhague, on a réussi quand même à avoir, je crois, à peu près 180 pays qui ont maintenant fait déposer leur copie sur les efforts qu'ils étaient prêts à faire pour réduire leur effet de serre et pour contribuer à la lutte contre le changement climatique. Deuxièmement, il y avait un premier document à Bonn qui était préparatoire à cette COP, et il semble qu'ils se soient mis d'accord sur une première trame qui a encore beaucoup de points à faire arbitrer par les ministres, mais on a franchi la première étape, c'est-à-dire d'avoir un document de référence. Or, je vous rappelle que on n'était même pas capable de faire ça à Copenhague. Alors maintenant, il reste des sujets à arbitrer. Alors il y a ce qui semble décidé déjà, c'est-à-dire au moins que tout le monde soit obligé de compter de la même manière ses effets de serre et de publier régulièrement, d'avoir une plateforme pour que on sache chaque pays combien il fait de CO2 dans l'atmosphère. Donc ça semble déjà acquis. Maintenant, les débats qui sont en cours, c'est bon, est-ce qu'on va s'en tenir à 2 degrés Celsius comme objectif, ou est-ce qu'on met l'objectif encore plus haut, c'est-à-dire à 1,5 degré? Il faut bien savoir que pour un certain nombre d'îles et de territoires, 2 degrés, ça veut dire qu'ils disparaissent. Donc la question était de savoir si on pouvait monter les enjeux. La deuxième chose, c'est que la totalité de ce qui est proposé aujourd'hui sur la table de négociation ne permet pas d'espérer d'atteindre les 2% à l'échéance à la fin du siècle. Donc on est dans une situation où, faute de pouvoir obtenir tout de suite un engagement de tous les pays qui amènerait à la certitude qu'on ne dépasse pas les 2%, le débat il a lieu sur est-ce qu'on va pouvoir faire tous les 5 ans ou tous les 10 ans un bilan pour pouvoir durcir les exigences qu'on se pose les uns et les autres pour atteindre les objectifs. Donc la clause de ce qu'on appelle la clause de revoyure va être un élément déterminant. Plus on le fera court, 5 ans, plus on a des chances d'atteindre les 2% à terme et surtout de remonter le niveau d'exigence des différents pays. Le troisième débat, c'est quand est-ce qu'il y a un pic? C'est-à-dire tout le monde est d'accord pour dire on va pas pouvoir baisser tout brutalement. Il faut parce que des pays comme la Chine, l'Inde ont besoin de se développer encore. Donc on va avoir un pic encore, ça va encore monter, mais il faut qu'on se donne une date du pic et après on baissera vraiment durablement. Donc ça, c'est le débat sur la date qu'on se fixe pour le pic est un des sujets encore en discussion. Le troisième sujet est très 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 important, c'est est-ce que c'est contraignant ou pas? Alors contraignant, c'est difficile, mais vous savez en anglais c'est shall ou bien should. Vous voyez, c'est devrait ou doit, en sachant quand même qu'il y a une limite à cet exercice et qu'il n'y a pas de sanction. Donc c'est difficile d'avoir des sanctions, il y en avait dans le protocole de Kyoto, elles n'ont pas été appliquées. Donc le débat, c'est aussi exigence, on dit doit atteindre, et par ailleurs, on doit avoir un rendez-vous pour être sûr que les gens ont bien atteint leur objectif et que ils font pas comme si. Et dernier point, le financement, pour les pays en voie de développement ou les plus pauvres, il faut trouver 100 milliards. Ils n'y étaient pas à l'entrée de la COP. Est-ce qu'on va les trouver à la fin? Et est-ce que ces 100 milliards, c'est des vrais 100 milliards et pas des promesses en l'air? Voilà un peu tout ce qui se discute actuellement à Paris et maintenant entre les ministres concernés.
De ce côté-ci de l'Atlantique, on a Catherine Feuillet, qui est consul générale de France à Montréal, avec qui on va s'entretenir en dernière partie de l'émission. Madame Feuillet, bonjour. Bienvenue à Radio Centre-Ville. Alors, Mme Feuillet, donc, oui, excusez, petit problème de micro, donc, rebonjour, Mme Feuillet. Alors, oui, vous avez, enfin, j'imagine qu'en tant que citoyenne, vous êtes très, très préoccupée par l'environnement, comme nous tous, et en tant que représentante de la France de ce côté-ci de l'Atlantique, vous voulez intervenir, je pense.
Oui, tout à fait, pour vous signaler que j'ai déjà eu l'occasion de m'entretenir avec un certain nombre de mes compatriotes ici à Montréal, et vous dire qu'au-delà de la négociation unique qui se déroule à Paris, dont nous avons tous conscience, ce qui importe, c'est aussi la mobilisation réelle de tout un chacun. Et je sais que des initiatives citoyennes sont en cours de construction au sein de la communauté française à Montréal pour faire vivre au quotidien la COP21, des gestes concrets autour de la consommation d'énergie, par exemple, et de la sensibilisation de tous, notamment des enfants, puisque la prise de conscience des plus jeunes et leur sensibilisation est un élément très important de la bonne suite de la réalisation de ce que pourront être les engagements des États au niveau de la COP21.
Ben, c'est à suivre. Madame Lierman, si on quitte un peu la COP21 et on parle de la France elle-même, est-ce que vous seriez prête à dire que la France, en matière d'énergie verte, en matière de protection de l'environnement, est un exemple à suivre ou à ne pas suivre, ou entre les deux?
Bon, d'abord, il ne faut pas être prétentieux, hein, des exemples à suivre. Alors, on peut être très bon sur certains sujets. Globalement, quand on regarde, nous sommes un des pays qui avons le moins de consommation, enfin, le moins d'effet de serre. Mais il faut aussi nuancer tout de suite, on a un parc nucléaire très important. Donc, ne pas donner des leçons. Nous, en tout cas, il y a une révolution culturelle qui s'est engagée. Déjà, avec le précédent gouvernement, avec ce qu'on avait appelé le Grenelle de l'environnement, et là, avec la loi de transition énergétique que vient de faire voter Mme Royal, on est quand même en train de changer vraiment d'étape. Par exemple, dans le bâtiment, maintenant, nous ne construisons plus que des logements à haute performance environnementale et nous nous préparons à faire du passif, c'est-à-dire il y aura autant de production d'énergie qu'on en consommera, en réduisant bien sûr la consommation. Nous sommes en train de voter des lois complémentaires sur la mutation de notre agriculture vers l'éco-agriculture. Donc là, il y a vraiment chez nous un vrai changement. Et comme le disait Mme Feuillet, ce qui est le plus important pour que ça marche, c'est qu'il y a maintenant une adhésion des collectivités locales, du monde associatif, des citoyens qui sentent que chacun doit prendre sa part à cette évolution. Donc je crois qu'honnêtement, vous savez, en France, c'est un peu toujours la même chose. On n'est pas forcément les premiers à sortir du bois, mais quand on sort, avec tous les réseaux, services publics, etc., on arrive à une bonne efficacité. Je crois qu'on est maintenant dans cette dynamique-là.
Côté parisien maintenant, Anne Hidalgo, votre collègue et la mairesse de Paris, a montré beaucoup d'intérêt pour améliorer la qualité de vie à Paris. Il est question, je pense, de rouler, d'accepter certaines voitures avec des plaques d'immatriculation pair, impair. Ça se fait beaucoup dans le monde. Si on parle juste de Paris, je l'ai remarqué moi-même pour être allé plusieurs fois à Paris et d'avoir vu 10 ans s'écouler entre deux de mes séjours. Paris s'améliore quand même, faut le dire. On peut faire du vélo. Il y a de plus en plus de lignes de tramway.
Absolument.
Est-ce que Paris est sur la bonne voie?
Il faut vous dire qu'il y a plusieurs choses qui vont faire évoluer. Madame Hidalgo s'est beaucoup engagée pour qu'on organise le Grand Paris. Parce qu'en fait, la circulation dans Paris, elle n'est pas seulement des Parisiens, elle est beaucoup des gens dans la banlieue. Donc, si on veut traiter la circulation, ça doit être à une grande échelle. Et vous savez qu'on vient de créer une grande métropole qui s'appelle le Grand Paris, avec Paris et sa banlieue. Et toute une série d'expérimentations, comme par exemple Autolib ou Vélib, qui sont des véhicules Autolib, c'est des vélos, le vélo pour Vélib, et des véhicules électriques non polluants pour Autolib, mis à disposition des gens. On va élargir le périmètre, donc du coup, permettre une vraie réduction de la circulation automobile dans Paris. Après, on vient d'inaugurer des stations pour les véhicules à hydrogène, ce qui est un peu, et nous pensons que c'est une des voies pour les particuliers qui, surtout pour les livraisons et autres, qui pourrait être aussi une voie tout à fait positive. Et puis il y a un grand projet d'investissement de transport en commun, comme une sorte de maillage dans la moyenne couronne, qui doit beaucoup agir là-dessus. Puis en matière d'urbanisme, on travaille sur la plantation des comment dire, des terrasses, des murs, etc., pour que on ait aussi une présence de la nature dans la ville. Voilà, oui, Anne Hidalgo est très investie dans tous ces sujets-là. Et avec du succès, et je dois dire aussi, de plus en plus d'acceptation par les Parisiens. Vous savez, au début, quand on a réduit la circulation, par exemple, interdire la circulation sur les rives de la Seine, ça avait été le drame. Non, maintenant, c'est bien accepté.
Voilà. Marie-Noëlle Lieman, la COP21 tire à sa fin, donc vendredi. En quelques minutes, vos prédictions sur le texte final et vos souhaits par le fait même.
Écoutez, je suis plutôt optimiste. Je pense que ce sera peut-être pas très contraignant dans la forme. Je suis pas sûre qu'on ait, à cause des Américains, ils veulent pas de contraintes trop fortes. Mais je pense qu'on aura la clause tous les 5 ans de révision vers le haut. Ça, c'est quand même très important parce que ça soutient la dynamique. Je pense qu'on va réfléchir aux formes que pourrait prendre ou non un marché carbone. Et je crois qu'on va être en situation d'avoir quand même l'engagement sur les 2% à la fin du siècle, avec peut-être une option à 1,5 degré en option à rediscuter dans quelques temps.
Madame Lieman, je vous souhaite une bonne négociation.
Voilà, écoutez, merci aux amis du Québec. Chacun prend sa part dans ce grand combat collectif pour lutter contre le changement climatique. Toutes mes amitiés au peuple québécois.
Merci beaucoup, Madame Lieman. Voilà, donc c'était Marie-Noëlle Lieman en direct du Bourget, et je vous rappelle son adresse internet, donc mnlieneman.fr.